France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je dis l'Atalante, Hôtel du Nord, Quai des Brumes, Drôle de Drame, les plus mélomanes des cinéphiles auront trouvé que le point commun entre ces films des années 30 est la musique de Maurice Jaubert. Maurice Jaubert et le cinéma, l'affaire semble entendue. De là vient justement la méprise. Jaubert n'était pas que compositeur pour le cinéma, mais compositeur, talent qu'on peine encore à lui reconnaître. C'est la cause que défend François Porcil, mon invité, qui lui consacre une riche biographie dans laquelle brillent les multiples facettes d'un art aussi singulier que de son temps. Maurice Jaubert, de François Porcil, chez Bleu Nuit Éditeur. De Maurice Jaubert, c'était un extrait de la musique composée pour le film de Jean Vigo, L'Atalante, film de 1934. Bonjour François Porcil.
Bonjour Philippe Venturini.
On vous connaît comme grand spécialiste de la musique française, mais aussi du cinéma. Vous avez œuvré dans les deux domaines avec le talent et le succès que l'on sait. Vous venez donc, je l'ai dit, de consacrer une biographie à Maurice Jaubert. Alors, on va pas trop s'attarder, mais il faudra évidemment donner quelques éléments biographiques, mais né en 1900 à Nice, dans une famille...
Bourgeoise, mélomane.
Mélomane. Et ce contexte familial a favorisé son orientation vers la musique, même si au départ, il ne se dessinait pas.
On l'orientait vers le barreau.
Puisque, oui, enfin, comme papa.
Il a été le plus jeune avocat de France en 1919, ouais. Mais on ne lui a pas interdit d'opter pour la musique, et dès l'instant où il est monté à Paris rencontrer Honegger en 1923, il s'est décidé définitivement d'opter pour la musique et d'abandonner la toge.
Mais donc il est monté à Paris, comme on dit, pour faire son droit.
Non, il a fait son droit à Nice. Puis, il a fini à Paris.
Oui, d'accord.
Mais il était pion à l'école Bossuet pour gagner sa vie.
C'est ça. Alors, comment justement, avec ces études de droit, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans le milieu? Parce que très vite, on découvre qu'il est accueilli au sein du milieu et musical et le milieu du cinéma. Comment est-ce que ça s'est fait, François Porcil?
Alors ça, c'est assez étonnant. D'abord, côté cinéma, il était ami d'enfance de Jean Renoir.
Oui, bon. Voilà. Ça aide.
Ensuite, il s'est trouvé que chez Honegger, il a rencontré un groupe de musiciens jeunes comme lui. C'était Pierre-Octave Ferroux qui allait fonder le fameux groupe du Triton, ouais. Marcel Delannoy et Jacques Brillouin qui était ingénieur chez Pleyel. Mmh. Et c'est donc Brillouin et Ferroux, qui travaillait aussi chez Pleyel à l'époque, qui l'ont fait entrer chez Pleyel comme graveur pour ce fameux piano automatique dit Pleyela,
c'est ça, ouais.
Qui avait enchanté Stravinsky. Était ouais. Enseigne que Stravinsky avait un bureau chez Pleyel pour faire les réductions pour Pleyela de Noce, du Sacre du Printemps, de Petrushka. Enfin, ouais. C'était, ouais. Et dans les locaux de Pleyel, Jaubert rencontre Maurice Ravel, qui sera son témoin de mariage en 1926.
Mmh. Et alors, cette formation musicale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il avait quel type de formation musicale, Maurice Jaubert?
Il avait un prix de piano au Conservatoire de Nice, et il travaillait avec un ancien scoliste qui s'appelait Albert Grose. Mais ça a été son seul prof d'écriture.
C'est ça, donc il n'est pas passé par le Conservatoire de Paris.
Il était totalement atypique.
Ouais.
et ça, on lui a fortement reproché, justement... Ouais. La critique, lui, n'a pas mâché ses mots par rapport à son soi-disant amateurisme.
Oui, d'ailleurs, vous, tout au long de votre livre, François Porcil, vous citez des extraits de compte-rendu, de critiques de ses œuvres. Effectivement, bon, la presse l'a pas toujours éreintée. Hein. Les avis sont parfois partagés, mais effectivement, parfois, on ne l'a pas loupé, comme on dit. Alors, par quel type de musique Maurice Jaubert s'est-il orienté ou exercé à la composition?
Ah, ça c'est une bonne question, parce que en fait il a été un peu stravinskien à ses débuts, par exemple son impromptu pour piano, on ne peut plus stravinskien, mais après il trouve quelque chose qui lui est très personnel, qui est une espèce de couleur franche, un peu fauve, si vous voulez, si on parlait peinture, des couleurs très tranchées, et surtout une limpidité harmonique qui est vraiment très caractéristique, c'est-à-dire qu'il s'encombre pas de surcharge, c'est toujours très clair, il va droit au but. Enfin, c'est une musique un peu, on pourrait dire, si vous voulez, un peu à la Roussel, mais sans le côté un peu néo-impressionniste qui est toujours un peu chez Roussel. Là, on est encore plus nerveux et encore plus franc.
Mais cette clarté, cette nervosité, cette franchise des attaques, c'est aussi un peu ce que cherchait la musique française dans ces années 20, les années 30, quand même.
En cherchant aussi un peu la complication harmonique, les saveurs néo-ravéliennes un peu... Là, il s'en démarque. Non, finalement, le compositeur avec lequel il s'est trouvé le mieux, c'est Kurt Weill.
Ouais.
Vraiment, et sur le rôle social de la musique et sur le style. Ils se sont retrouvés ensemble.
C'est une pierre d'amiral dessus la galère. Il l'avait emportée de son pays, et quand il était seul sur la mer, il se mettait sur cette pierre. L'amiral, il est quelque chose à Paris, et la pierre est dans les orties. Avec les ordures de la ville, je l'ai prise et passée à l'huile, et je l'ai mise en ma voiture. À l'équilibre sur des taquets, je repense comme ça les gros couteaux de la boucherie quand ils sont sales avec du sang. Alors relâchant ma pierre, elle est à son plein de bonheur, parce que le son, c'est comme la mer, triste et fait de sel, et parce qu'elle est dans le regard de ce fer de couteau, aiguisé comme un assassin malheureux.
Ça gratouille un peu, mais c'est un 78 tours des années 1940. C'était Joseph Perron, ténor, accompagné au piano par Jean-Michel Damas. C'était l'eau vive, un extrait de l'eau vive, le Rémouleur, c'est le texte de Jean Giono, une mélodie, un cycle de quatre mélodies de Maurice Jaubert. Un hommage à sa Provence,
Bien sûr, oui. Ça, il a été extrêmement marqué par son...
Par son sud, quand même.
Par
oui.
son sud. Et mais pas tellement le sud Riviera que le sud montagnard.
Oui, la montagne, oui, oui, ce que vous expliquez.
Passionné d'alpinisme.
Oui, c'est ça, il adorait quitter la côte pour aller marcher en montagne.
Et, et faire du ski.
C'est ça, oui.
Hors piste. De manière qu'il était, de la même manière qu'il était hors norme, il skiait hors piste.
Il n'était jamais entre les lignes. Alors,
jamais dans les clous.
François Porcil, alors, Maurice Jaubert, ses premières œuvres, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des commandes? Est-ce que c'est de la musique qu'il compose spontanément? Comment est-ce que ça se passe?
Non, ça c'est des entreprises tout à fait personnelles.
Ouais.
Ses commandes, c'était finalement c'était ses musiques de film. Toute sa musique symphonique de chambre, etc. C'était des. Vraiment, je cherche quelle œuvre a pu lui être commandée.
Ouais.
Franchement.
Est-ce que ça veut dire, à vous lire, je crois que la réponse est oui. Il y a encore de la musique qui est restée donc dans les tiroirs et qui n'a pas encore.
Il y a encore des choses à créer.
C'est ça, à éditer.
L'Ode à la montagne est à créer. La cantate Nativité est à créer.
D'accord.
Oh mes frères perdus est à créer.
Les musiciens qui nous écoutent, curieux, avides de découvrir de nouveaux répertoires, vous n'ont qu'à vous faire signe alors. Donc il y a encore de la musique de Maurice Jaubert à découvrir.
Enfin, il y en a. Heureusement, un certain nombre ont été édités
les
deux dernières décennies, mais il y a encore du travail à faire.
Et alors venons-en à la musique de film, puisque vous l'avez mentionné, François Porcil. Est-ce que ça veut dire que quand même il a eu toute sa vie cette étiquette et qui lui colle encore aujourd'hui compositeur de musique de film.
Oui, et à l'époque c'était une honte.
Oui, c'est ça.
Stravinsky disait le seul intérêt de la musique de film est de nourrir son compositeur. et Poulenc, qui a écrit peu de musique de film, en parlait comme de l'ivraie. J'espère qu'on trouvera encore des bons grains dans ma musique une fois cet ivraie fauché.
Oui, donc c'était vraiment pas. C'était pas ce qu'on peut.
Il faut reconnaître quand même que Honegger et Auric ont vraiment cru à la musique de film.
Mais alors, si on parle de cette musique composée pour le cinéma, la musique que compose Maurice Jaubert est à l'opposé absolu de ce qu'on pouvait entendre, par exemple, à Hollywood, où c'était des orchestrations post-straussiennes.
Oui, alors, c'est une chose qu'il faut préciser, c'est que Jaubert a compris très vite quelle était la spécificité de la musique de film, qui était une musique mécanisée. Pour la pellicule, il fallait écrire de manière radicalement différente de la manière dont on écrit pour le concert, parce que l'enregistrement était de mauvaise qualité. Donc, il fallait utiliser des instruments solistes si on voulait qu'on entende quelque chose et non pas une bouillie informe. Alors, dans ces musiques de film, il n'y a jamais plus de 30 instrumentistes. C'est très très rare. Par exemple, vous avez passé tout à l'heure la séquence du départ de la péniche de la Talente, il y a 11 instruments.
Donc c'était à la fois une volonté pragmatique, parce qu'il fallait faire avec les contraintes techniques.
Et il pensait que c'était aussi le style que devait avoir la musique de film, c'est-à-dire la simplicité, l'évidence et la transparence.
Thank you.
Extrait de la suite française de Maurice Jaubert, c'était La Ronde. Alors, François Porcil, on peut entendre cette musique de différentes façons parce qu'elle a été utilisée plusieurs fois. Je profite évidemment de vous avoir dans le studio pour en avoir plusieurs explications. Alors, au départ, donc cette suite française de Maurice Jaubert, elle a été composée dans quel but ?
Alors, elle a été commandée pour un film documentaire sur la Seine, ouais. Sur le cours de la Seine, depuis la source jusqu'au Havre. Ouais. Et ce film n'a aucun qui date de 1932, n'a aucun commentaire et a été entièrement monté sur la musique préenregistrée. C'est-à-dire que Jaubert a eu libre cours d'écrire cette suite, c'est ce qui est devenu la suite française. Ouais. Et Jean Lotz, le réalisateur, a monté son film au rythme de la musique qui était déjà écrite.
D'accord.
Écrite.
Donc c'est une œuvre en plus qui, par la suite, a pu avoir son autonomie et être jouée au concert.
Ah ben, elle a été créée aux États-Unis par Vladimir Goldschmidt. Et elle a été. Il faut reconnaître que c'est une des rares œuvres symphoniques de Jaubert à être un peu connu.
Quoi. D'accord. Alors, je faisais appel dans mon introduction aux plus cinéphiles ou aux plus mélomanes et cinéphiles de nos auditeurs. Peut-être que certains d'entre eux ont pu reconnaître que cette musique a été utilisée donc par François Truffaut.
Dans l'histoire d'Adélache. Voilà. Le premier des quatre films successifs où il a utilisé de la musique de Jaubert.
Grâce à qui ?
En vitesse. J'avais publié un premier bouquin sur Jaubert en 1971.
Avec un titre qui était déjà évocateur.
Musicien populaire au maudit point d'interrogation, et il était tombé entre les mains de François Truffaut, qui était donc très amateur de la musique de Jaubert, et quand il a vu que dans le catalogue qui termine le bouquin le nombre d'œuvres inédites, il a pris contact avec moi en disant « Est-ce que vous imaginez qu'on puisse faire un film avec des œuvres inédites de Jaubert ?» Et donc, après Adélache, il y a eu L'argent de poche, il y a eu L'homme qui aimait les femmes, et La chambre verte, qui pour moi est le plus beau des quatre.
Pourquoi avoir choisi cette suite française pour l'histoire d'Adélache ?
C'est une histoire drôle. C'est dans Les Deux Anglaises et le Continent, ouais. Il avait essayé de convaincre Georges Delerue d'utiliser un saxophone. Et Georges lui avait dit, mais non François, ça va complètement dater le film, ça va faire mélo. Et Truffaut, qui était un homme têtu, il a été question de Jaubert, il m'a dit, trouvez-moi des thèmes avec saxophone solo. Et alors justement, dans la suite française, il y a un superbe solo de saxophone dans la partie qui s'appelle R, et qui a été finalement la voix intérieure d'Adélache. C'était finalement la musique intime d'Adèle. Et non, parce que il avait des obsessions comme ça, Truffaut, amusantes. Par exemple, il disait à Delerue, je ne veux pas de piano pour les scènes d'extérieur, parce que le piano est un instrument d'intérieur. Des choses comme ça, amusantes.
Et donc, il a quand même utilisé à quatre reprises, François Truffaut, la musique de Jaubert, et à chaque fois, il a fait appel à vos compétences pour les choisir.
J'étais, entre guillemets, conseiller musical.
Ouais.
Je trouve que le plus pertinent, c'est La Chambre verte, parce que j'ai réussi à le convaincre de n'utiliser qu'une seule œuvre, qui était le concert flamand. Et je lui avais dit, vous gagnerez en émotion et en rigueur.
Il était convaincu à la fin.
Oui.
François Porcil, revenons un peu sur l'évolution de la carrière de Maurice Jaubert. Donc, on a bien compris qu'effectivement, le cinéma, c'était quand même ce qu'il avait fait connaître et certainement ce qu'il avait fait vivre aussi. Mais à côté, comment son style musical a évolué et quel était son credo ? Vous citez un moment, il était convaincu qu'il fallait composer pour le plus grand nombre, c'est ça ?
De la grande musique pour tout le monde.
En quoi
il rejoint Kurt Weill.
Mais alors, est-ce que c'est aussi le credo des années 30 ?
Pas tellement, parce qu'on était quand même dans la musique élitaire et qui était très éloignée. Alors justement, il a été un des grands artisans musicaux du Front Populaire, à telle enseigne qu'il a été l'homme orchestre quasiment de l'exposition internationale de 1937, où il était partout, chef d'orchestre, compositeur, presque metteur en scène d'opéra bouffe, enfin il était partout. Ça a été l'année 37, ça a été son année culminante, disons.
Oui, parce qu'il avait, vous le mentionnez, François Porcil, il dirigeait aussi, il avait aussi un...
Et très bon, bon chef. Très bon. Il était d'ailleurs réclamé par ses collègues pour enregistrer leurs partitions de films. Jacques Ibert, Arthur Honegger, Alexandre Tansman lui demandaient de diriger l'enregistrement de leur musique de film.
Et vous avez fait, François Porcil, le parallèle avec Courteval, qui, on le sait, était aussi, avait aussi des préoccupations sociales et politiques vis-à-vis de la place de la musique dans la société.
C'était des gens de gauche. Des gens de gauche. Et d'ailleurs, c'est à propos de Courteval, c'est Jobert qui a introduit Courteval, quand il a fui l'Allemagne nazie et qu'il est arrivé à Paris, c'est Jobert qui l'a introduit chez l'éditeur Eugel. Puisque son contrat avec Universal était rompu.
Bien sûr,
Et donc, il a, pendant son bref passage en France...
Qu'il aille aux États-Unis.
Eu bénéficié de l'estime et de l'amitié de Jobert.
Et donc, ces préoccupations sociales et politiques, donc Maurice Jobert les partageait alors ?
Oui, sauf qu'il était catholique pratiquant, mais antifasciste profondément. C'est en quoi il rejoignait l'équipe de la revue Esprit. C'est-à-dire qu'il était totalement intégré dans l'équipe d'Esprit.
Félicity Lott, l'ensemble de chambre de Paris et sous la direction d'Armin Jordan. C'était trois sérénades pour trio à cordes et harpe. C'était pour Virginie sur un texte de Francis Jammes. Musique, bien évidemment, de Maurice Jobert. François Porcil, on arrive donc à la fin de la courte vie Maurice Jobert, puisqu'il meurt en 1940, donc à 40 ans.
Un des derniers morts de la drôle de guerre.
Voilà. C'est ça, oui. Mais en Moselle, donc
en Moselle. À côté de Baccarat, très exactement. Et donc, en n'ayant pu terminer, ce que j'estime être son chef-d'œuvre, c'est Saisir pour soprano, orchestre à cordes, piano et harpe sur des poèmes de Jules Supervielle, de son ami Jules
Supervielle. Ouais, mmh. Ouais. Et alors, au terme de cette courte vie, donc de 40 années, François Porcil, on se rend compte que Maurice Jaubert, que l'on associe encore aujourd'hui uniquement au cinéma, connaissait tous les grands artistes dans tous les domaines, le cinéma, la musique, la littérature, la poésie, le théâtre, la peinture. C'était vraiment
C'était ce qu'on va dire à l'époque, je crois qu'on disait un honnête homme.
C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Et alors, si je reprends le titre du premier ouvrage que vous aviez consacré à Jaubert et qui avait donc alerté Truffaut, qui était paru donc en 71, musicien populaire ou maudit. Alors aujourd'hui, en 2019, François Porcil, qu'est-ce que vous pensez?
Alors, pas maudit, mais toujours populaire.
Pas encore, oui, d'accord.
Parce que quand même, quand vous chantez la valse de 14 juillet à Paris dans chaque faubourg, les gens disent « Ah, c'est lui, ah, c'est Jaubert quand vous fredonnez le thème de Quai des Brumes ou la complainte de Drôle de Drame, les gens disent « Ah oui, c'est lui, hein, tiens, ah bon, c'est Jaubert, ça, je savais pas. » Ouais. La valse grise de Carnet de Bal, tout le monde connaît. Ouais, c'est Jaubert. Ouais. Bon.
Donc il faut que maintenant on identifie davantage effectivement les musiques que l'on connaît et peut-être que l'on défriche sa musique non destinée au cinéma.
Sa musique dite sérieuse.
Voilà, dite sérieuse, avec entre de grosses guillemets, on va dire. Mais effectivement, parce que il y a quelques enregistrements, là, on vient d'entendre des artistes de la trempe de Félicity Lott qui se sont intéressés, qui se sont penchés sur ce compositeur. Et donc, il faut sans doute inciter les deux jeunes artistes aujourd'hui à s'intéresser à la musique de Jaubert.
Ça serait heureux.
Bon, bah, très bien, espérons qu'il vous écoute. Merci François Porcil, je rappelle le titre de votre ouvrage, Maurice Jaubert, tout simplement, qui vient de paraître chez Bleu Nuit, éditeur. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Sur notre site francemusique.fr, vous pouvez retrouver tous les renseignements relatifs à la programmation musicale de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.